On va pouvoir commencer cette rencontre avec Philippe Aubert-Côté, un auteur québécois, si je ne me trompe pas. Vous, tout à fait. Et on va discuter de nouvelles, on va discuter de son roman, de cet énorme roman, Jeu du Démiurge, autour duquel on va discuter. Et puis on va discuter un peu de technologie, je pense, de terraformation, de petites choses comme ça. Ma première question, c'est, puisqu'on est dans un festival de science-fiction, comment tu as découvert la science-fiction, l'imaginaire, ce genre de littérature? Est-ce que tu en lisais avant d'en écrire ou
J'en lisais avant d'en écrire. Mon premier contact avec la science-fiction, il faut remonter loin, j'étais au primaire en deuxième année et j'avais comme professeur une religieuse qui était vraiment horrible sur le plan moral. En d'autres termes, elle nous enseignait qu'il y avait les bons et les méchants dans le monde et comme nous, on était tous méchants, on allait tous finir en enfer, en gros. Et à la fin de la deuxième année, j'ai lu un roman, L'étrange cas du Dr. Jekyll et Mr. Hyde de Robert Louis Stevenson, qui a été une révélation. Il faut se remettre dans le contexte. J'étais un petit gars de deuxième année, donc c'est à peu près 7-8 ans, si je ne me trompe pas. Et là, je découvre un roman qui nous enseigne qu'on n'est pas bon ou méchant, mais qu'on est bon et méchant. Oh, ça, c'était subversif pour un enfant de mon âge. Et ça a été une révélation qu'une histoire, mais fantastique, ou de science-fiction, puisqu'il y a un procédé chimique qui est à l'origine de la transformation du Dr. Jekyll, eh bien, puisse nous faire réfléchir sur l'être humain. Donc, ça a été mon premier contact avec la science-fiction. Et ensuite, je me suis mis à lire d'autres grands classiques, comme La machine à explorer le temps de H.G. Wells, qui est mon champion de la science-fiction classique. Donc, je me suis mis à en lire de plus en plus.
Et même de la science-fiction moderne, tu en lisais, du coup, des auteurs contemporains de cette époque, ou tu te contenais à cette science-fiction beaucoup plus classique?
Quand j'étais plus jeune, au siècle dernier, il y a longtemps, oui, je lisais beaucoup plus de la science-fiction dite classique. Donc, les romans d'H.G. Wells, Jules Verne, justement, j'en ai lu beaucoup. Et c'est plus tardivement que je me suis mis à la science-fiction plus contemporaine. Parce que pendant l'adolescence, je lisais beaucoup de fantastique et d'épouvante. J'ai eu ma phase de Stephen King comme tout le monde. Et c'est plus, je dirais, au cégep que j'ai commencé à lire la science-fiction contemporaine et à voir que... ou que ça pouvait me transporter dans d'autres mondes. Et ça m'a éveillé à tous les possibles que la science-fiction pouvait apporter.
Et comment tu t'es dit un jour, je vais écrire? Est-ce que tu as toujours voulu écrire ou est-ce que tu écrivais dans ton coin? Ou un jour, tu t'es dit, je vais écrire de la science-fiction parce que j'arrive pas à trouver mes idées, mais parce que j'ai envie de raconter une histoire?
Mais j'ai toujours voulu écrire des histoires. Puis j'ai essayé d'écrire toutes sortes de petites histoires. Je me souviens qu'au secondaire, j'avais écrit une nouvelle d'une cinquantaine de pages que ça racontait un imbroglio à la Beaumarchais le jour d'un mariage, quelque chose de même. Donc, on était loin de la science-fiction, mais j'avais ce réflexe de vouloir écrire. Mais je suis toujours revenu à des histoires où il y avait du fantastique ou de la science-fiction. J'aime ça le petit plus qu'il y a dans ce genre de récit et que je ne retrouve pas dans les récits de littérature dite générale, par exemple. Sans vouloir dénigrer ce genre de littérature-là, évidemment. Moi, le petit plus, l'effort d'imagination, d'imaginer quelque chose qui ne se peut pas être d'essayer de le rendre de manière cohérente dans un récit, ça m'a toujours fasciné.
L'importance du sens, sense of wonder, par exemple, d'imaginaire. Mais quand est-ce que tu as commencé à écrire tes premières nouvelles que tu voulais publier, en fait? Comment t'en es arrivé à te dire j'ai envie de pas d'écrire pour moi mais d'écrire pour un public, pour être publié?
Je dirais que ça a toujours été là. Je peux pas identifier de moment précis où je me suis dit ah tiens, je veux publier. Il me semble que dans mon souvenir, les deux composantes ont toujours été là, écriture versus rendre accessible ça à l'autre. Ça a toujours été présent. Ça a pris du temps avant que ça arrive, évidemment.
C'est arrivé quand, du coup?
La toute première nouvelle que j'ai publiée était dans un fanzine qui s'appelle Horrifique. C'était une petite histoire d'épouvante, mais qui peut vraiment passer à l'oubli, même sur mon site web. J'en parle seulement parce que Claude Janel, dans son dictionnaire des auteurs du fantastique, en parle. Donc, si lui en avait pas parlé, j'aurais pu passer à la trappe de l'histoire. Et bon. Mais la première publication vraiment significative, c'était une nouvelle en Solaris, le premier de sa lignée.
Solaris, qui est une revue francophone canadienne,
oui.
Pour resituer pour notre public français, une des plus vieilles revues de science-fiction, d'ailleurs, de mémoire.
Oui.
Ouais, c'était juste pour contextualiser.
Oui, la plus vieille revue des genres de l'imaginaire, fondée en 1974, je crois. Et Solaris est surtout connu pour... pour plusieurs raisons, mais sa rigueur, la qualité de sa direction littéraire. Donc, publié dans Solaris, c'est un exploit dans un certain sens, parce qu'il faut que les textes soient d'une certaine qualité, il faut être prêt à les retravailler, il faut être prêt à aller jusqu'au bout de même. Donc, c'est pas n'importe qui peut... tout le monde peut s'essayer, et j'invite les gens à le faire un peu, mais il faut être conscient que... Ça demande un certain processus, ça demande une certaine énergie pour aller jusqu'au bout. Et j'avais déjà soumis des nouvelles à Solaris qui avaient été refusées. La qualité n'était pas là. Mais c'est lors du refus d'une de ces nouvelles que le rédacteur en chef de l'époque, là, feu Joël Champetier, qui nous a quittés l'année dernière, m'avait dit « Mais vous avez des idées, vous savez écrire, vous savez juste pas comment raconter une histoire. Est-ce que vous savez qu'Elisabeth Von Harbourg donne des ateliers? » Moi, j'ai appris qu'elle en donnait encore à l'époque. Puis il m'a dit, avec la plus grande générosité du monde, je peux lui envoyer votre nom, dire un bon mot, puis tout ça. Donc, j'ai contacté Elisabeth. Je crois que Joël lui a parlé par en arrière. Et Elisabeth m'a prise dans son atelier. Et la nouvelle que j'ai apportée à l'atelier s'appelait « Le premier de sa lignée ». Donc, il y avait des chimères humains-animales dans cette histoire-là. C'était une histoire policière. On a retravaillé le texte avec Elisabeth. Je l'ai soumis à Solaris et ça a été accepté pour publication.
Et du coup, comment ça se passe en atelier d'écriture?
À l'atelier d'écriture?
Oui.
J'en ai pas fait beaucoup, parce que je sais que les ateliers d'écriture ont des fois mauvaise réputation. Beaucoup de personnes en donnent. Et je connais quelques personnes qui en ont essayé plusieurs qui ne sont pas toujours satisfaits. Mon expérience avec l'atelier d'écriture d'Elisabeth a été très positive, mais elle suivait à l'époque un protocole très précis. C'était chacun écrivait un texte de 15 pages maximum et on se rencontrait. Tous les participants avaient lu les textes, les avaient commentés et on faisait une ronde de commentaires et Elisabeth nous imposait une règle. Il ne fallait jamais dire c'est bon ou c'est pas bon ou c'est pourri, c'est moche. Ou il fallait dire tel élément ne marche pas parce que. Donner une raison. C'est très simple comme consigne, mais cette obligation-là qu'elle nous imposait faisait que, bon, moi, avant de critiquer, j'étais obligé de trouver une raison. Et ça nous aidait à développer notre esprit critique et on était capable de l'appliquer à nos propres œuvres après. Parce que les défauts que je voyais dans les textes des autres, je me disais, bon, est-ce que j'en ai dans mes propres textes? Donc, elle nous inculquait un certain esprit critique et ce qui est plaisant avec Elisabeth, c'est que son but, c'était de nous aider à écrire ce qu'on veut écrire. Je sais qu'il y a certains ateliers d'écriture où les animateurs veulent juste « je vais vous enseigner c'est quoi la bonne littérature, comment bien écrire ». Elle, c'était vraiment nous aider à atteindre notre objectif. Même si elle ne l'aurait pas écrit, elle me l'a déjà dit une fois pour une de mes nouvelles, elle m'a dit « moi, j'aurais commencé ça autrement, mais je suis conscient que toi, l'histoire que tu veux raconter, c'est celle-ci et c'est ça qui t'intéresse, alors tu as suivi le bon chemin ».
Et on va parler un peu, voire beaucoup de ton premier roman, Le jeu du démiurge. Est-ce que tu peux nous expliquer la genèse du jeu du démiurge, justement?
Eh bien, c'était au début censé être une nouvelle pour l'atelier d'Elisabeth. Oui, une nouvelle, et bon, ça, c'est le produit fini. C'était un exercice au début, parce qu'Elisabeth, des fois, pour nous faire écrire des histoires, employer des jeux comme nous faire piger des mots à ça dans un dictionnaire où on peut partir d'une image. Moi, je voulais essayer l'exercice à partir d'un morceau de musique parce que mes parents sont musiciens. J'ai grandi dans un univers de musique classique et plus contemporaine. Et je me suis dit, je vais prendre une pièce de musique vraiment tordue et je vais essayer de faire une histoire avec. Et mon choix s'est porté sur Pacifique 231 d'Arthur Honegger. Pour mettre les gens en contexte, c'est un compositeur français d'origine suisse ou l'inverse, ma mémoire me fait défaut, qui a mis en musique la mécanique d'une locomotive à vapeur. Donc, vous pourrez aller voir sur Internet Pacific 231, donc PACIFIC, vraiment à l'anglaise. Et c'est une musique qui est très particulière. Quand j'ai entendu ça, je me suis dit, cette musique est tordue, elle me plaît. Et j'avais dit à Elisabeth, je vais essayer de faire une nouvelle à partir de cette pièce de musique. Et là, elle m'avait regardé, mais avec un regard impérial, en me disant, j'ai bien hâte de voir ce que tu vas faire avec ça. Et j'insiste sur le « ça », c'était mais dégoulinant de « ça bon. ». Mais j'ai fait donc une nouvelle là-dessus, mais j'ai commencé à développer, puis je me suis dit « non, il me semble que ce serait plus grand, ça serait bon pour faire une novella ». Puis après ça, hop, un roman, puis finalement ça a fait deux romans.
Le jeu du Démiurge, c'est une terraformation. Mm-hmm. C'est un space opéra. Mm-hmm. C'est un... Ça frogue aussi un peu à Art Science. Comment t'as construit ton univers? Tu t'es dit d'abord, je vais écrire un space opéra, je vais écrire vraiment la terraformation d'une planète. Ou comment t'as élaboré le monde?
Rien de tout ça. Rien de tout ça. Ça s'est construit de soi. Des fois, il y a certaines histoires que je fais où je peux me dire, ah, j'ai envie d'écrire tel genre, ou ça va être un space opéra ou autre chose. Mais la plupart du temps, c'est... Je commence à imaginer une histoire, je la développe et, tiens, si j'ai besoin que ce soit du space opéra, eh bien, ça va être ça et je vais me documenter en conséquence. Pour le Démiurge, un des points de départ, oui, il y avait la musique Pacifique 231 d'Arthur Honegger. Un autre élément d'inspiration, c'était l'histoire des révoltés du Bounty. Donc, pour rappeler aux gens ce que c'est une histoire authentique qui est arrivée dans les années 1780. Si j'ai bonne mémoire, c'est le Bounty était un navire anglais qui avait été envoyé à Tahiti pour ramener des arbres à pain pour les colonies pénitentiaires de l'Empire britannique. Et c'est un voyage qui s'est très mal déroulé. Et à un moment donné, en plein milieu du Pacifique, tout le monde a, comme on dit en bon québécois, a pété sa coche ou a pété les plombs. L'équipage s'est révolté et a débarqué le capitaine et ses fidèles dans un bateau en plein milieu du Pacifique et ils les ont abandonnés là. Donc, le capitaine et ses fidèles ont réussi à revenir à la civilisation, un exploit qu'on n'a jamais été capable de refaire. Il y a des téméraires qui ont essayé de faire ça, parcourir 8000 km en bateau sur le Pacifique. Ils n'ont pas été capables. Et le sort des mutins est resté longtemps très secret, jusqu'à ce qu'on découvre qu'ils s'étaient réfugiés sur une île, l'île de Pitcairn, où ils avaient brûlé le Bounty. Ils étaient restés là. Cette histoire-là m'avait toujours fasciné. On en avait fait trois films. À Hollywood, trois films que j'avais vus étant petit, puis pendant que je réfléchissais au Démiurge, ça a donné qu'on a repassé l'un des films, celui-là avec Anthony Hopkins et Mel Gibson. Et quand j'ai vu cette histoire-là, je me suis dit, on pourrait faire un truc de science-fiction avec ça. C'est une histoire extraordinaire et qui est vraie en plus. Et je me suis dit, si je la mettais dans un autre contexte, et je me suis rendu compte que ça pouvait servir de décor ou... parce que pour le Démiurge, je commençais à imaginer des postes humains. Ils étaient coincés sur une planète, je ne savais pas pourquoi. Et quand j'ai revu l'histoire du Bounty, je me suis dit, ça pourrait être des mutins. Ils se sont révoltés, ils se sont débarrassés de leur capitaine, ils l'ont tué. Et ils se sont cachés sur une planète qui est leur île de Pitcairn. Et ils ont tenté de faire un monde à leur image et ça va mal. Donc, quand j'ai pris ce choix-là, là, c'est sûr que les choix de parler de space opéra, de terraformation se sont imposés. Et là, je me suis documenté. Mais c'est parce que l'histoire l'a imposé.
Et du coup, on assiste dans ton roman à deux chronologies bien distinctes, à deux façons d'approcher cette terraformation. On a cette planète révoltée du Mounty, qui est Salkin 2. Si je ne me trompe pas de gars sur la prononciation, ouais. Qui est peuplé de dominoïdes, les Mikai, et qui vénère et adulte les post-humains et certains post-humains qui sont restés d'un côté. Et de l'autre, on a vraiment le voyage de l'équipage post-humain jusqu'à cette planète qu'ils vont terraformer. Et ma question est-ce que tu y avais pensé dès le départ? C'était voulu de jouer sur ce principe de mystification d'un côté, de déification d'un côté et de conquête de l'autre, ou c'est venu au fur et à mesure en te disant il faudrait que je raconte comment tout le monde s'est installé, comment le monde s'est créé?
Ça s'est imposé de soi aussi. l'idée d'alterner en deux trames, une trame passée, une trame présente, m'était venue de la lecture du roman Le Père de Frankenstein de Christopher Bram, dont on a tiré le film Gods and Monsters avec Ian McKellen et Brendan Fraser il y a quelques années. Et c'est un roman qui est construit avec une trame au présent et c'est entrecoupé de flashbacks donc sur la vie de James Whale, qui est le réalisateur de Frankenstein. Et quand j'avais lu le roman, j'avais trouvé ça intéressant comme procédé. Sauf pour un point, dans le démiurge, la juxtaposition du passé et du présent crée un élément de suspense. Quand on est dans les trames au présent, avec les Mickey, on entend parler de Rumac le démiurge, qui est devenu fou, donc qui a fait des choses pas très gentilles, pour employer un euphémisme. Et quand on est dans le passé, on nous montre Rumac en fonction, avant qu'il devienne fou, alors qu'il est tout à fait gentil. Et on constate un contraste entre les deux. Donc, si j'ai bien travaillé, le but, c'est que le lecteur se dise, mais voyons, dans le présent, on nous dit que ce personnage-là est méchant. Manifestement, dans le passé, il ne l'est pas. Et quand on est dans les épisodes qui sont dans le passé, on se dit, ce personnage-là va devenir fou. Comment? Donc, ça crée des questions, ça crée un certain suspense. En lisant le roman de Christopher Bram, moi, j'avais trouver qu'il pouvait y avoir un jeu pour créer du suspense qu'on pouvait employer dans l'alternance d'une trame passée et d'une trame au présent. Pour le démiurge, je ne me souviens pas du moment où ça s'est imposé. Ce qui est probable, c'est que en me demandant comment dispenser toute l'information sur le passé de mes personnages, j'ai dû me dire, je crois que ça va être plus facile de montrer les choses, de faire comprendre pourquoi tel personnage est devenu un mégalomane, est devenu un méchant ou un lâche, si je montre son passé plutôt que de seulement le raconter. Et là, la construction avec une alternance passé-présent qui peut générer du suspense s'est imposée d'elle-même.
Et au niveau du... dans ton roman, il y a beaucoup de technologies voulues de montrer l'avenir de l'homme, de la post-humanité avec ses frises chronologiques qui montrent l'évolution humaine jusqu'à arriver aux Eridanis qui sont les post-humains qui lancent cette fameuse conquête de l'espace. Tu t'es inspiré, on trouve de grosses parts de philosophie plutôt orientale ou japonisante, et de mecha. Est-ce que ça a été une grosse source d'influence pour toi pour créer cet univers, d'avoir des repères fixes? Il y a aussi d'autres allusions à Salvatore Dali, avec Dali. Comment ça s'est passé pour créer cet univers? Est-ce que tu t'es inspiré de choses, d'éléments concrets, ou tu as laissé divaguer ton imagination pour te dire j'arriverai à ce résultat-là?
Il y a un peu de tout, je dirais. Je suis quelqu'un qui adore les délires visuels. J'adore les films de Terry Gilliam, l'humour des Monty Python. J'aime quand on... par exemple, je pense au film Les aventures du baron de Munchausen. C'est sauté, ce film-là. Il y a une imagination débridée là-dedans. Moi, j'adore ça. Et au moment de créer mes histoires, souvent, je pense à une image, à quelque chose d'exagéré ou de sauté, et j'essaie de le rationaliser après. Quand j'écris des histoires, je veux m'amuser. S'il y a des messages ou des trucs comme ça, ça vient après, si ça va venir. Mais je veux d'abord m'amuser. Et dans le cas du démiurge, je voulais créer un monde qui en mettrait plein la vue. Je me disais qu'il y aurait quelque chose de délirant. Et je suis allé puiser, c'est sûr, des images, des iconographies de mes intérêts et tout ça. Et mon but, c'était d'être le plus excentrique possible. Mais de rationaliser qu'il y a une logique. Donc, les fameux Dali, justement, qui sont mentionnés dans le roman, eh bien, il y a un livre sur Salvador Dali qui traîne chez moi, puis en le feuilletant dans le métro... À un moment donné, j'avais vu à l'arrière-plan de ces tableaux ces espèces d'animaux sur des pattes démesurées, comme des éléphants ou des fois auxquels ils greffaient des instruments de géométrie, des choses comme ça. Donc, c'est complètement délirant. Mais c'est tellement beau aussi. Et je m'étais dit, il me semble qu'on verrait ça bouger sur une planète, ça serait impressionnant. Et je me suis dit, bon, si c'est impressionnant, je vais essayer de mettre ça dans le roman. Donc, ça a beaucoup fonctionné comme ça aussi.
Et au niveau de la science, ta biographie au quatrième de couverture de ton roman dit que tu es un docteur en nanotechnologie. Est-ce que ça... On parle de nanotechnologie dans ton roman, on parle de nanopuces. Comment la science... est-ce que ton parcours scientifique t'a beaucoup aidé, inversement, avec l'écriture du Démiurge? Comment t'as réussi à... Est-ce que t'as voulu réinsérer, par exemple, ce que tu étudiais ou...
Je dirais que ça n'a pas été un but prémédité. je peux répondre en deux volets à ta question. Lors de mon parcours doctoral, il y a évidemment des idées que je voyais passer et qui ont été inspirantes. J'ai pour principe que tout doit servir à tout. Tout ce qu'on a dans notre culture peut servir à faire de la fiction. Et lors de la préparation de ma thèse, je m'étais intéressé à un philosophe belge, Gilbert Ottois, qui a beaucoup écrit sur la post-humanité, le transhumanisme. Et Ottois cherchait, se posait la question, qu'est-ce qui va faire en sorte que le post-humain peut rester humain? Comment modifier un être humain pour en faire un cyborg ou autre chose, mais s'assurer qu'il reste toujours humain, qu'on ne s'avance pas avec une chose immonde? Et lui soumettait l'hypothèse, proposait un impératif qui était que les post-humains conservent leur éthicité, leur capacité à évaluer leurs actions, à s'interroger sur leur sens de leurs actes, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, selon quelle valeur, etc. Et je trouvais ça intéressant comme idée, parce que les post-humains dans la science-fiction sont souvent des êtres froids, qui sont déshumanisés, ils n'ont plus d'émotions, ils sont proches des ordinateurs. Je pense à certaines bandes dessinées, entre autres, je n'ai pas de référence littéraire, roman qui viennent en tête, mais je pense à certaines bandes dessinées. Et ce cliché-là me fatiguait un peu, et je me disais, pourquoi ne peut-on pas devenir post-humain et garder son humanité aussi? Et quand j'ai lu Gilbert Ottois, je me suis dit, ben voilà, je vais imaginer des post-humains qui ont conservé leur éthicité et qui ont conservé une partie de leurs émotions pour pouvoir évaluer leurs actions. Donc, d'un côté, oui, certaines idées de mon doctorat ont servi à créer le démiurge. Ensuite, quand j'ai eu besoin d'aller puiser de l'information, je suis allé la chercher. Donc, d'un côté, oui, mon parcours académique a pu inspirer des idées, mais après ça, quand la fiction exigeait que je complète l'information, je suis allé la chercher. Oui, on parle de nanotechnologie là-dedans, dans ce roman. Ce n'est pas parce que je voulais parler de nanotechnologie, c'est parce que j'ai eu besoin d'en parler.
Et les nanos. Les arbres machines, par exemple.
Les arbres machines, où il y a une sorte de poussière noire qui dessèche les gens là-dedans. Donc, il fallait que je justifie rationnellement ces miracles. Là, je souhaite donc aller chercher dans ma thèse, dans les nanotechnologies, ce qui pouvait les justifier.
Et en parlant des post-humains, justement, de la part d'humanité, on a tout un pan de l'histoire qui s'intéresse justement à ces post-humains. Et on remarque que tu as réinventé des corps, tu as réinventé des bras, tu t'amuses à créer des proportions et un vocabulaire qui leur sont propres, et même une sexualité qui n'est plus presque humaine. On arrive à de l'hermaphrodisme, mais presque. Comment t'es venue l'idée? T'avais envie de pousser jusqu'au maximum cette post-humanité, ou tu t'es...
Ça, c'est... Ma réponse va être croustillante. Il n'y a pas d'enfant dans la salle, non? Non, bon, je crois que ça va rester entre nous. S'il y a des enfants, fermez-les.
C'est enregistré, mais c'est pas
enregistré.
Grave.
Vous mettrez un visa 16 ans et plus.
16 ans et plus.
Disons. L'idée de l'hermaphrodisme m'est venue d'une part parce que les post-humains Eridani, dans ce roman, sont conçus pour la conquête spatiale. Et ça me semblait commode qu'une race qui soit dévouée à la conquête spatiale possède les deux sexes. Parce qu'en cas de pépin, eh bien, on s'assure que même s'il reste deux ou trois individus, ils sont capables de se reproduire. Donc, ça peut être pratique pour la colonisation. Puis, on l'a vu chez certaines espèces animales, quand les ratios mâles-femelles sont débalancés, ça peut créer des problèmes génétiques aussi. Donc, je me suis dit, tiens, je vais essayer ça, ils vont être hermaphrodites. Et là, c'est posé la question, comment je vais qualifier mes Eridani? Est-ce que ça va être des « ils », des « elles » ? Parce qu'en français, on est soit il, on est soit elle, on n'est pas les deux, ou on n'est pas ni l'un ni l'autre. Il nous manque quelques pronoms personnels dans notre langue pour le justifier. Et je me demandais comment résoudre ça. Et le hasard, et c'est là que c'est un peu croustillant et un peu délirant, moi et mes amis, on a redécouvert la vieille série animée des Transformers, qui jouait quand j'étais petit, donc c'était en 1984, c'était il y a très longtemps. Et à un moment donné, dans un des épisodes, on voit apparaître des Transformers filles. Et je m'étais dit, c'est curieux parce que ce qu'on nous explique, c'est que les robots dans cette série-là n'ont pas de reproduction sexuée. C'est une machine qui les crée. Alors, pourquoi rajouter des robots filles? Bon, on sait pourquoi.
Intérêt c'est commercial.
Un intérêt commercial. Parce qu'on voulait plaire à on voulait vendre les produits aux filles aussi, pas juste aux garçons. Mais le fait de penser que les Transformers n'étaient pas sexués, bien, l'idée de penser les autres comme des mâles n'avait pas de sens non plus. Donc, ils n'ont pas de sexe. Et en fouillant un peu sur Internet, j'avais vu que c'est une question qui avait été abordée dans l'adaptation en comique de cette série-là. Mais mes amis et moi, on avait trouvé ça drôle et on s'était mis à délirer parce que on s'était mis à délirer. Il faut que je dise une chose, c'est, moi, je suis homosexuel, personnellement. Et moi et mes amis gays, on s'est mis à rire un peu, à imaginer que les Transformers, c'était des gays refoulés. Il y avait quelque chose de caché derrière ça. On a déliré. Et ces délires-là, cependant, m'ont donné une idée. C'est que pour décrire mes hermaphrodites, j'allais employer le « il » et non pas le « elle ». Parce que souvent, en science-fiction, on avait vu des populations hermaphrodites ou qui changent de sexe et souvent, on les mettait au féminin. Et il me semblait que si je les mettais tous au masculin qui se désigne en « il », ça allait être plus étrange pour beaucoup de lecteurs. C'est ce que j'ai fait, c'est le pari que j'ai fait et il semblerait a priori que ça a marché parce que beaucoup de lecteurs m'ont dit pour la première fois, j'avais vraiment l'impression que mes hermaphrodites étaient neutres. Je ne peux pas expliquer le phénomène, c'est le commentaire qu'on m'a fait. On m'a dit si je les avais mis en L, on aurait moins cru qu'ils avaient les deux sexes. Mais le fait de leur donner les deux sexes, de les désigner au masculin, mais de leur faire adopter des comportements qui étaient aussi féminins.
Comme porter un enfant à tour de rôle pour certains.
Exactement, les hermaphrodites peuvent peuvent porter des enfants à tour de rôle. Ils parlent de leur projet parental, même s'ils se désignent au « il » chacun. Donc, ça donnait une impression de neutralité. Ça a fait quelque chose d'intéressant. Mais je dois avouer, c'est venu du délire de moi et de mes amis sur une série animée des années 80.
On a d'autres... D'ailleurs, en Eridanie, on assiste aussi à des triangles amoureux. Il y a un triangle amoureux dans la conquête de l'espace qui forge un peu tout le récit de la conquête où justement il y a des histoires de sexualité. Ce triangle amoureux était voulu pour ajouter un peu de suspense où au bout d'un moment tu t'es dit ce démiurge finalement il va rester là et que c'était quelque chose de voulu comme un peu un vœu de fille ou c'était...
Pour être franc, quelle a été la genèse du triangle amoureux qu'il y a dans ce roman-là? Je ne m'en souviens pas. Il est probable qu'il se soit imposé de lui-même. Il fallait que mes personnages se séparent à un moment donné. Et c'est que juste pour situer le spectateur, c'est qu'il y a deux Eridanie dans ce roman-là, Némeric et Roumac, qui sont ensemble dès le début. Et il fallait que je les sépare parce que les deux sont complémentaires. Roumac, c'est quelqu'un qui a des idées, on l'appelle pas le demi-ouche pour rien, il y a une créativité folle, il y a des projets, mais de grandeur. C'est quelqu'un qui n'a pas de limite. Alors que son ami, Némeric, est plus terre-à-terre. C'est quelqu'un qui le maintient au sol. Quand il est avec Roumac, il aide à canaliser son énergie dans les bonnes choses. Et il fallait que je les sépare pour qu'arrive une histoire, pour que l'histoire aille mal, parce que je voulais que Roumac devienne fou, c'est que sans son conjoint, si je peux l'appeler ainsi, eh bien, il s'investit dans des projets démiurgiques qui sont gigantesques, mais il oublie les conséquences, il ne réfléchit pas aux conséquences et il sacrifie tout ce qu'il y a autour de lui. Donc, il fallait que je lui retire ses limites et ses limites, c'était qui? C'était Némeric. Donc, c'est pour ça que je les ai séparés et j'avais imaginé le triangle amoureux où c'était plus logique dans cette histoire d'amour-là où il y en a un.
Mais du coup, on a Némeric, le personnage principal, qui nous sert un peu de témoin, de chroniqueur, de manière plus ou moins détournée grâce à ses souvenirs. Il porte des plumes. C'est le seul. Il y a un côté très, très psychologique, à la fois dans le travail, mais dans le rôle de ce personnage, mais dans le ressenti. Est-ce que c'était voulu d'avoir quelqu'un qui soit vraiment dans l'affect ou qui ne soit pas dans l'action, toujours en retrait, pour pouvoir observer, décrire ton univers et ta conquête?
L'idée des plumes, c'est des plumes sensorielles très particulières. Eh bien, ça allait avec la fonction de Némeric, parce que les Eridanie sont séparées en 6 castes qui ont chacune leur fonction. Et celle à laquelle appartient Némeric, est plus portée sur le travail psychologique. Donc, les sensoplumes qui permettent à Némérique justement de savoir comment l'autre se sent sont très utiles pour le travail psychologique. En même temps, ça le rend très sensible, très fragile aussi. Et quand il est séparé de Roumac, justement, il lui manque quelque chose, il lui manque un certain élan, il s'effondre. C'est autant Némérique, c'est les balises qui aident Roumac à fonctionner, bien, autant Roumac, c'est la force vitale qui aide Némérique à... Parce que Némérique, finalement, ressent ce que les autres vivent, mais n'a pas vraiment d'émotion par lui-même. Un peu où c'est plus difficile.
Je voulais parler aussi des Mikai. On a un peu occulté en parlant des post-humains. Tu as créé une race hominidée qui m'a fait beaucoup penser à la planète des singes, par exemple. Est-ce que comment t'es venue l'idée de cette race esclave des Eridani sur cette planète qui s'affranchit?
Ça vient de l'histoire du Bounty. Encore, les révoltés du Bounty, après avoir abandonné leur capitaine, se sont réfugiés sur l'île de Pitcairn avec des Tahitiens qui ont... parce qu'ils sont repassés par Tahiti, où ils n'ont pas été très bien accueillis. Ils ont pris des Tahitiens avec eux, ils sont allés sur l'île de Pitcairn. Et pendant 18 ans, ils auraient essayé de créer une société parfaite et ça n'aurait pas marché. Entre autres, il y aurait eu une révolte des indigènes Tahitiens qui étaient avec eux. Je voulais reproduire la même dynamique et il me fallait l'équivalent d'un indigène. Comment l'imaginer? J'avais imaginé une sorte d'être humain brut, BRUT, mais pas vraiment un singe. C'est sûr qu'au début, je me souviens que mes premières descriptions des Mikai, ils ressemblaient beaucoup plus à des singes, mais c'était pas ça. Il y avait quelque chose qui ne me satisfaisait pas. Et j'ai entrepris de les dessiner. Ça m'arrive de dessiner parfois. Et je les ai fait beaucoup plus proches de l'être humain, avec des traits juste très légèrement simiesques. Donc, la planète des singes, je n'ai pas vraiment d'inspiration de ce côté-là. En tant que personne que passant en biologie, j'ai eu des cours d'évolution, puis j'aime bien l'évolution de l'homme, puis j'ai toujours un fait pour les primates, qui sont des animaux très intelligents là, et formidables. Mais je dirais que le design des Mikai vient peut-être plus de mes cours d'évolution que de la planète des singes ou que d'une autre inspiration de science-fiction.
Et ces Mikai, justement, il y a un petit côté, il y a deux tonalités dans le roman avec ces deux chronologies, avec des références un peu épiques de quêtes, vraiment de... On reste dans la science-fiction, mais avec des quêtes un peu de fantasy, dans le sens du héros qui doit s'accomplir, qui passe par les étapes, qui passe un rite initiatique. Est-ce que c'était voulu en termes d'avoir ces deux tonalités bien tranchées et ces deux facettes d'un même monde, vu d'un regard différent à deux temporalités différentes ou pas du tout? Pour Takeo, par exemple. Quand même.
Je voulais qu'il vive des aventures. Je suis un grand fan de manga, d'animation japonaise. D'ailleurs, ça paraît dans le roman. Le roman flirte beaucoup avec le manga qu'on appelle de type shonen, un peu comme Naruto. Et dans ce genre d'histoire, il y a souvent des quêtes, des combats épiques aussi. Donc, je verrais une influence de ce côté-là. Je voulais faire une histoire d'aventure, je voulais que ça bouge. Et c'est sûr que, comme je disais tantôt, tout doit servir à tout. Donc, je puisais dans mes influences, évidemment. Je n'ai pas pensé à la fantasy en écrivant ce livre-là, mais en le relisant, je voyais des liens aussi avec certaines dynamiques qu'on voit dans les romans de fantasy. Bon, la quête, la guerre, mais aussi le méchant seigneur ténébreux qu'on croit mort et qui revient. T'sais, Roumac, c'en est un. T'sais. Et quand je me suis rendu compte qu'il y avait je dirais pas ce cliché-là, j'aime pas les connotations du terme cliché, parce qu'un cliché, ça peut être un outil qui peut servir aussi. Bien, j'ai décidé d'y aller à fond et de m'amuser avec aussi.
Comment tu as construit tout ton univers, tout un jargon, d'en discuter un peu avant cette conférence tous les deux. Tu as le parti pris de placer beaucoup de références et d'exposer beaucoup sans forcément expliquer du premier abord. Est-ce que c'était voulu avec tout un jargon de mots qu'on retrouve dans un lexique à la fin, d'avoir de l'exposition et de plonger, d'immerger le lecteur directement avec très peu de clés de lecture, avec du jargon scientifique ou science-fictionnel?
C'est un choix volontaire. Il y a beaucoup de romans de science-fiction qui procèdent ainsi. Je les appelle les romans à immersion. On pousse le lecteur dans la piscine et il doit apprendre à nager tout seul. Il y a quand même des outils pour le faire, mais il doit faire une certaine partie du travail. Mais j'apporterai quelques nuances quand même. Il y a certains romans, c'est très délicat à faire. Il y a des romans où ça marche et d'autres, ça marche pas. Je pense à certains exemples de romans où il y a tellement de néologismes qu'on ne s'y retrouve pas, mais même après 100 pages, on ne comprend pas. Mais c'est que des fois, l'auteur ne nous donne pas les outils. Il ne prend pas le temps de nous introduire. Il ne nous attache pas à un personnage qui va évoluer dans cet univers-là et aider le lecteur à apprendre. Donc, dans le jeu du démiurge, le lecteur doit faire un apprentissage. Mais au moins, il y a un guide. C'est le personnage de Takeo où le lecteur va se fixer dessus. Et à travers ce que vit Takeo, les problèmes avec son grand-père, à peu de choses près, Takeo, c'est l'adolescent typique qui vit chez une personne âgée qui souffre d'Alzheimer ou qui a une maladie.
Avec le mal de Roumac.
Avec le mal de Roumac.
On va en parler dessus. Oui. Enfin,
donc, Takeo vit des choses que le lecteur contemporain pourrait vivre, mais il le vit dans un monde qui est différent du nôtre. Et la stratégie, c'est que peu à peu, à travers ce que lui vit, on finit par en apprendre sur le monde dans lequel il habite et on finit par comprendre le jargon, comprendre les concepts, comprendre la dynamique propre à ce monde-là. Donc, il y a un apprentissage à faire, mais il se fait relativement en douceur. J'ai dit relativement, oui.
Et en termes de dosage, quand tu écris, quand tu écrivais certains passages, est-ce que tu disais, il faut que je, surtout dans cette découverte du monde, est-ce que j'en mets trop, pas assez? Est-ce que tu as eu des retours de lecture sur justement ce dosage de néologisme, de lexique présent ou non?
Des retours de lecture, j'en ai. Je fouille dans ma mémoire. Il y a des personnes qui ont compris que c'était de l'immersion et se sont dit il faut laisser le temps à l'ouvrage de se faire son travail. Et quand on continue, on finit par s'y retrouver et puis ils ont embarqué dans le récit, ils n'ont eu aucun problème. Il y en a quelques-uns, moins habitués à ce genre de science-fiction-là, qui ont eu peut-être un peu plus de misère, mais avec le lexique qu'à la fin, ils se sont très bien retrouvés. Et ce qui m'amuse, c'est que il y a un mot dans le roman qui a posé problème à quelques lecteurs, et je pense que c'est peut-être le seul mot qui est authentique, qui n'est pas inventé. C'était le mot « cataphractaire ».
Oui,
qui est authentique, qui existe, qui désigne un soldat qui est revêtu d'un certain type d'armure. C'est le terme consacré. Et beaucoup de gens m'ont dit, « Ah, Philippe, quand tu as inventé ce nom-là, tu aurais pu. Je ne l'ai pas inventé. C'est le seul que je n'ai pas inventé. » Les autres que j'ai inventés, puis que je me suis arraché les cheveux à les inventer, à trouver les bonnes graphies, tout ça, ça a très bien passé. Celui-là, les gens butent dessus, mais c'est le seul qui n'est pas de moi.
Mais est-ce que tu as pris plaisir justement à se faire ce lexique, ces arbres généalogiques? Est-ce que tu trouvais que c'était un plus ou une demande auquel tu répondais?
Non, je trouvais que c'était un plus. Il y a des lecteurs qui s'en sont très bien passés, d'autres ont apprécié. Donc, je me dis, ça n'a pas été une distraction, ça a aidé les lecteurs qui en avaient besoin. Les autres, ils ont trouvé ça le fun d'avoir du matériel supplémentaire. Donc, moi, je ne regrette pas la décision d'avoir mis des lexiques et des arbres généalogiques.
Une carte aussi.
Et une carte aussi, ouais.
Tu t'es d'ailleurs amusé avec la topologie de la planète et à remettre des noms de fantaisie, genre un château, le château de la Moraine.
Ouais.
Est-ce que tu pensais géographiquement à placer tes tribus ou tes conflits géopolitiques, ou tu t'es dit j'ai besoin d'un conflit géopolitique entre deux tribus Mikai et je les place là?
C'est un mélange des deux. Je dirais que c'est souvent quand on écrit une histoire, on prend une position, on va décider d'un point de départ. Oui, il va me falloir un conflit politique entre deux tribus, mais on développe l'univers, puis on se dit, à un moment donné, ça serait logique qu'il y ait un conflit entre ces deux autres tribus-là, par exemple. Donc, les deux phénomènes existent et peuvent se nourrir, et ça a été le cas dans ce roman-là. Oui, je voulais qu'il y ait un conflit entre la ville de Nagak au sud, puis la contrée éonite au nord. Mais au début, c'était les deux seules populations Mikai que j'avais imaginées. Mais à force d'étoffer l'univers et de réfléchir à sa logique, je me suis rendu compte à un moment donné que ce n'était pas logique qu'il n'y ait que deux tribus Mikai. Alors qu'ils étaient si nombreux et répartis sur un territoire aussi vaste, c'était logique que ce soit plus fragmenté et plus diversifié que ça aussi. Et là, ça a été une partie de plaisir de diversifier ces tribus-là, leur imaginer des coutumes différentes. Ça a étoffé le monde, ça l'a rendu plus intéressant aussi. Et ça, ce n'était pas prémédité. Ce qui a été prémédité, c'était les deux tribus de départ. Mais le reste s'est imposé lui-même. C'est l'histoire qui m'a demandé de le faire.
Et Du coup, on arrive à un objet qui est à peu près une chronique assez complète d'un monde qui sera bientôt en devenir. Est-ce que tu as décidé, après ce qui,
ça, excuse-moi, je n'ai
qui
pas
est
compris.
En devenir, qui est laissé en devenir à la fin du roman, est-ce que tu continueras cet univers ou c'est une période, c'est un livre univers que tu laisseras de côté, que tu ne, auquel tu ne donneras pas de suite?
C'est la question à un million.
Je rêve voilà. Bien, du coup.
Ben.
Je rêve bien, c'est un million, si tu veux.
À l'origine, j'ai laissé une fin ouverte au roman et je n'ai pas prévu de faire de suite. La fin ouverte que j'ai mise dans le livre me semblait logique. Je ne dis pas c'est quoi, évidemment. Mais le problème, si on peut appeler ça un problème, c'est que beaucoup de lecteurs m'ont dit, mais se sont mis à me demander qu'est-ce qui arrive après. Et je n'avais pas de réponse. Et je leur disais, il n'y a pas de suite de prévu, j'ai envie de passer à autre chose. J'ai quand même passé beaucoup de temps sur ce roman-là et j'ai envie d'écrire d'autres genres. Bon. Sauf que l'autre jour, je suis tombé sur un morceau de musique qui n'était pas inintéressant. Ce roman-là est parti d'un morceau de musique. Et l'autre jour, en fouillant dans mes... voyons, c'est quoi le nom? C'est le décalage horaire. Dans mon iTunes, j'ai oublié le nom du logiciel. Je suis tombé sur un générique de film. Et le début du générique, j'ai dit, « Ah, ça serait... » Je veux dire... Je me suis juste fait comme penser, « Mon Dieu, si cet univers-là était un film et qu'il y avait une suite à faire, cette musique-là irait bien au début. » Et là, je me suis dit, oh non, 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 ça y est. J'ai trouvé un morceau de musique qui peut inspirer une histoire. Non. On va voir. Je ne promets rien. On va voir.
Et de fait, tes prochains projets d'écriture, si ce n'est pas écrire une suite, tu en as? Est-ce que tu peux nous en parler ou c'est en gestation?
Je peux en parler. Je travaille en ce moment sur un roman. Le premier jet est déjà écrit. Comment je pourrais le dire? Je ne sais pas si certains d'entre vous ici ont déjà vu le film Histoire de fantômes chinois. Si ça dit quelque chose, oui. C'est un des films préférés à moi et mon conjoint. C'est une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, on est ensemble. Il adorait ce film-là, puis il l'a écouté plusieurs fois, puis il est capable de l'écouter. Alors, j'ai acheté le DVD, puis on l'a écouté plusieurs fois. Puis je l'avais déjà vu avant, évidemment. Et c'est un film que j'avais trouvé intéressant parce que ça nous parle de fantômes. Mais on nous montre le point de vue des fantômes, le point de vue des monstres. Puis on voyait que les fantômes avaient leurs intrigues humaines, tout ça. Et vraiment, surtout le personnage de la matrone qui est là-dedans, en tout cas, je l'adore. Et je voulais écrire une histoire de fantômes au début, mais je m'étais dit, je ne mettrais pas de fantômes. Et là, j'ai décidé de remplacer ça par des monstres japonais. J'aimais les trucs japonais, mon conjoint aussi, mon conjoint est asiatique. Et je me suis mis à réfléchir à cette intrigue-là en pensant à l'histoire de fantômes chinois. Qu'est-ce qui m'avait intéressé dans le film? Je me suis dit, est-ce que je pourrais faire une histoire qui reprendrait le même twist? Des monstres, des fantômes, mais on a leur point de vue aussi, on a leur fonctionnement, on a leur monde. Et ça a donné quelque chose qui flirte avec la science-fiction. Donc, c'était bloqué un peu dernièrement parce que j'ai quatre personnages principaux dans le roman et celui qui est plus principal que les autres, ça faisait des mois que je le détestais puis que je voulais juste l'assassiner. Il m'intéressait pas. Chaque fois que je revenais à lui, je disais, « Oh non, pas lui. C'est le personnage principal. Il y a un petit problème. Hein? » Mais je suis parvenu à résoudre. Je l'ai rendu intéressant, donc il va vivre. C'est déjà ça. C'est déjà débloqué. Donc, on va voir. Après les Utopiales, je veux m'y remettre et essayer de finir ça avant le mois de décembre.
Et tu vas continuer à écrire des nouvelles, du coup, en plus de ce roman? Tu continues les deux activités en parallèle?
Je vais me remettre aux nouvelles. Je suis plus à l'aise dans le roman. C'est juste que dans le roman, on a la place pour ses ambitions et ses délires. Mais je me suis mis comme résolution de continuer à produire des nouvelles aussi, d'essayer d'en faire une par an.
Et comment tu travailles tes nouvelles, du coup, puisque tu es très prolifique dans tes univers en roman, dans ce roman-ci? Est-ce que tu te mets plus de contraintes sur des formats courts? Tu travailles différemment? Comment tu fais?
J'ai tendance à avoir des idées de grandeur. Disons que s'il y a un personnage dans ce roman-là qui me ressemble le plus, c'est celui de Roumac pour cet aspect-là. souvent, le problème que j'ai avec les nouvelles, c'est que je commence par développer une histoire, puis je me dis, ah, c'est intéressant, puis je vais développer ça, puis là, ça augmente, puis bon, je suis rendu avec une trilogie. Mais parfois, ça peut arriver que, ah, ça donne une nouvelle qui est assez cohérente. Donc, si je veux faire une nouvelle à tout prix, il faut que je me mette des contraintes, puis je me fasse justice, puis des fois, je me dis, ben, les autres bonnes idées, je vais les garder pour d'autres textes. Mais souvent, ça arrive que je commence un récit, puis je dis, je vais voir où est-ce qu'il va s'arrêter. Et souvent, c'est une nouvelle. Je pense à la dernière grosse nouvelle que j'ai publiée dans Solaris qui s'appelle La carte ou la boussole. Il y a tout un univers complet dans cette histoire-là, mais c'est une nouvelle. Il n'y a pas besoin d'en dire plus. Je me suis déjà demandé est-ce que j'allais faire un roman avec cette histoire-là. Non, j'en ai pas le besoin. Je crois que tout est dit, que tout est correct. Je crois. Peut-être qu'un lecteur va me dire autre chose, mais...
Comme il nous reste à peu près 10 minutes, j'ai encore deux questions à te poser. C'est le thème des machines cette année. Mm-hmm. Et tu auras une question double puisque ton roman est bardé de machines de A à Z. Mm-hmm. Quelle est ta machine préférée dans ton roman et pourquoi?
Mon Dieu, ma machine préférée. Il reste 10 minutes à...
Tu as pas 10 minutes de réflexion.
Okay.
Les gens du MP3 vont se demander ce qui se passe.
Ma machine préférée, c'est sûr que... En fait, il y a deux machines que j'aime dans ce roman-là, mais pas pour les mêmes raisons. C'est sûr qu'il y a les Dali, les espèces d'anciens transporteurs de marchandises. Je les aime pour leur excentricité, pour leur forme. Et je me dis, voir un Dali en vrai, mon Dieu, quel spectacle ça doit être. Je suis allé voir les machines sur l'île de Nantes. C'est déjà impressionnant. Tu sais, un Dali, ça sera encore quelque chose. L'autre machine dont je suis assez fier, c'est le vaisseau qui transporte les Eridani jusque sur Selkin 2, le Lemnot. Pourquoi j'en suis fier? C'est que c'est un vaisseau qui est très plausible. Et j'ai beaucoup lu pour essayer de le concevoir et pour essayer d'imaginer son voyage et son fonctionnement. Donc, d'ailleurs, j'ai beaucoup puisé d'informations dans les ouvrages de Roland Lehoucq, qui est justement le directeur du festival. J'ai un exemplaire à faire dédicacer ici, donc il faut que je l'attrape à un moment donné. C'est que le Lemnot, c'est un vaisseau propulsé par... il capte l'hydrogène stellaire sur son trajet et le convertit en énergie, bon, et se propulse là-dessus. J'ai fait beaucoup de lectures pour imaginer le mécanisme, pour imaginer le design du vaisseau avec son bouclier à l'avant puis tout le reste, la machinerie à l'arrière. Et je suis assez fier de cette réalisation-là parce que c'est une machine qui est très cohérente, qui est très plausible. Elle n'est pas excentrique, mais très impressionnante en soi. Et c'est l'équivalent de mon Bounty aussi. Donc, j'avais une certaine affection.
Voilà. J'avais aussi une autre question, du coup. Ça, c'était la première en double vogue. Mm-hmm. La deuxième question, quelle machine de science-fiction aimerais-tu voir en vrai, créée de manière...
La machine à explorer le temps. Ça, c'est sûr.
Je m'en doutais un peu vu le début de l'interview.
Chez moi, j'ai un laminé, justement, de Rod Taylor dans La machine à explorer le temps, mais de la version 1960, qui est assez jolie. J'ai quelques films de machine à explorer le temps que j'aime bien aussi. Ouais. Celle de C'était demain avec Malcolm McDowell. J'aimais bien le design aussi. Ouais. Cette machine-là, j'aimerais ça la voir en vrai, c'est sûr.
Il reste presque 5 petites minutes. Comme vous êtes ici, on va quand même vous demander de poser des questions, s'il y en a. N'hésitez pas à vous rapprocher parce que le micro est filaire. On ne vous mord pas, donc n'hésitez pas.
Bonjour Yann, j'avais une question, c'est est-ce que vous avez lu, puisqu'on parle des révoltés du Bounty, L'île de Robert Merle?
Non, mais on m'a déjà posé la question. Si j'ai bonne mémoire, ils en ont fait un téléfilm et je crois avoir vu le téléfilm, mais je n'ai jamais lu ce livre, non. Je disais que non, je n'avais pas lu le livre.
Si, moi j'en avais une par rapport aux...
Oui.
J'en ai une qui me revient en tête par rapport à l'intelligence artificielle. il y a quand même un jeu sur toute cette intelligence artificielle. Comment tu les entrevoyais? Tu les entrevoyais comme moyen de faire progresser l'intrigue ou comme personnage vraiment prédominant?
Je vais faire une réponse hybride. Je les voyais comme des personnages utilitaires. Surtout, c'était commode qu'il y ait des intelligences artificielles, même si elles n'ont pas une place prépondérante comme dans les romans de Ian Banks, par exemple. Le Lemnote a besoin d'intelligence artificielle pour fonctionner. Et c'est vrai, cependant, il y a une intelligence artificielle qui joue un rôle important, c'est celle qui met le Lemnote en danger. Oui. Et j'avoue que celle-là, c'est un cas particulier. C'est que pour mon histoire, parce que dans le roman, il y a une mutinerie à bord du Lemnote, il me fallait un prétexte pour la mutinerie et je me demandais qu'est-ce qui peut arriver et qu'est-ce qui pouvait servir de prétexte donc à une révolte de l'équipage. Et mon choix, ça a été de mettre le Lemnote en danger, justement, de le mettre quasiment en perdition. Et c'est à cause d'une intelligence artificielle que cette perdition-là survient.
Sur un facteur plus ou moins d'humanité en plus, et tu leur donnes un caractère assez humain de solitude.
Ouais. Elles sont sensibles à la solitude.
Elles sont sensibles à la solitude.
Mm-hmm. Oui.
Comment, c'était un choix de les rendre humaines?
Oui. C'était un choix. Il fallait que mon intelligence artificielle puisse devenir schizophrénique. Donc, je l'avais rendue assez humaine et le contexte de l'histoire imposait que cette intelligence artificielle a été isolée pendant longtemps. Puis je me suis dit, un être humain isolé seul pendant longtemps deviendrait fou. Pourquoi pas une intelligence artificielle? Et il fallait que je lui fasse commettre des choses pas gentilles. Alors, je l'ai rendu folle.
Voilà. Est-ce qu'il y a encore une... Il y a une question juste là-bas.
Comment tu t'appelles?
Je m'appelle Jeanne. Je voulais vous demander, est-ce que vous avez repris quelques machines de Jules Verne, enfin son livre, ses livres. Est-ce que vous avez repris
La question, mademoiselle, est-ce que je me suis inspiré, est-ce que j'ai repris les machines de Jules Verne? Je te dirais oui, peut-être à un niveau inconscient, parce que j'ai lu Jules Verne enfant, et il y a un aspect dans... Les machines de Jules Verne ont un aspect... 19e siècle, c'est les boulons, le cuivre, le métal qu'on retrouve dans certaines machines dans le roman. Entre autres, il y a des dragons mécaniques qui peuvent voler. Je crois que Jules Verne aurait adoré ces machines-là, même si c'est des êtres vivants aussi. Un peu. Et, je m'excuse, monsieur, je ne vous ai pas demandé votre nom tantôt. C'était?
Yann.
Enchanté. Je vous sers la main à distance.
Est-ce qu'il reste une dernière petite question?
Yann?
Alors, c'est Yann. Enchanté, merci. J'ai entendu parler beaucoup de techniques. C'est-à-dire que j'ai besoin d'un conflit entre deux tribus, donc j'en mets une là. J'ai besoin d'un vaisseau qui soit plausible, donc je lis de la littérature scientifique. Est-ce que, à force de vouloir faire quelque chose de construit, de plausible, de cohérent, ou même le plus féru des fans ne va pas trouver de la faille qui montre que il s'est trompé, il l'a fait blanc là et puis noir ici? Est-ce qu'il reste de la place pour la créativité ou est-ce qu'il n'y a pas un peu trop de mécanique là-dedans, un peu trop de mécanique créatrice?
C'est une bonne question. Quand j'ai conçu le vaisseau spatial dans ce roman-là, le Lemnote, c'est un roman qui se déplace avec une technologie qu'on appelle, en anglais, le ramjet, en français, un statoréacteur. Donc, le vaisseau commence par être propulsé avec l'antimatière, et lorsqu'il atteint une certaine vitesse, il déploie un filet magnétique devant lui pour collecter l'hydrogène stellaire qui concentre dans un réacteur, il produit une fusion nucléaire et ça fait un jet et le vaisseau peut s'autopropulser. Pas besoin donc de traîner de réservoirs de carburant. C'est beau comme technologie, mais sur le plan technique, il y a plein de petits problèmes. La densité de l'hydrogène stellaire dans l'espace n'est pas constante, donc il y a des endroits qu'on risque de manquer de carburant. Quand on se déplace aussi près à des vitesses qui avoisinent la vitesse de la lumière, c'est un danger s'il y a des obstacles. Plus on va vite, moins on a de temps pour éviter les obstacles. Donc, quand on commence à réfléchir à tous ces aspects-là, on peut voir qu'un vaisseau comme le Lemnote n'est pas plausible, justement. Il y a beaucoup d'aspects techniques. Mais je me suis dit, les Eridani sont futés. Ils ont trouvé les solutions. Alors, je m'en suis remis à eux et je me suis dit... si en effet on est trop technique, on peut bloquer l'imagination. Et il y a un truc aussi, c'est que c'est vrai que si on nous dit que, par exemple, que telle technologie est impossible aujourd'hui, peut-être que plus tard, on va résoudre les problèmes. Donc, oui, le statoréacteur que je décris dans le roman, actuellement, est impossible. Mais dans un siècle, qu'est-ce qui va en être? Mon arrière-grand-père, pour l'anecdote, avait dit, on parle des années 1900, que c'était impossible d'aller sur la Lune, et il le croyait fermement. Donc, qu'est-ce qu'il aurait dit aujourd'hui? Donc, c'est un peu la même chose pour ça. Donc, oui, la technique, c'est bien pour alimenter la créativité, mais il faut en effet ne pas se laisser bloquer par elle.
On va arrêter là cet échange, puisqu'il est 16h tout pile. On vous remercie tous d'être venus à cette conférence et on vous souhaite une bonne fin de journée à ce festival. Bonne journée à vous.
Merci d'être venus.